Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
19h sur CNews, le point sur l'information avec vous, Mathieu Devez. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Trois personnes ont été blessées lors d'une attaque au couteau à Paris. Elle a eu lieu peu avant 8h ce matin à la gare de Lyon. Le suspect est un Malien de 32 ans atteint de troubles psychiatriques. Et puis à Lyon, cette fois, un homme fiché S a été interpellé alors qu'il menaçait des passants avec un couteau. Il a été arrêté dans le 8e arrondissement de la ville. Aucune personne n'a été blessée. La préfecture précise que l'homme d'une trentaine d'années avait été diagnostiqué schizophrène. Enfin, les États-Unis annoncent avoir détruit 8 drones au large du Yémen. L'objectif est notamment de protéger la liberté de navigation des attaques des rebelles houthis contre le trafic maritime. Ces opérations surviennent dans un contexte d'embrasement régional lié à la guerre entre Israël et le Hamas.
À la une de face à Mathieu Bock-Côté, 2024 comme un tournant politique pour l'Occident. En juin se tiendront les élections européennes, en novembre la présidentielle américaine, comme un parfum de révolution idéologique à Bruxelles et celui d'un comeback historique à Washington. En quoi ces élections peuvent changer la face de notre histoire? On en parle dans cette émission. Au programme également, cette passe d'armes par médias interposés entre Eugénie Bastier et Jean Viard, sociologue, macroniste convaincu. Il faut être extrêmement prudent avec l'extrême centre sous peine d'être taxé d'extrême droite. J'espère, Mathieu, l'avoir bien résumé. La dérive autoritaire de Jean Viard vous surprend. On en parle dans cette émission. Enfin, cher Mathieu, vous recevez ce samedi le journaliste, critique littéraire et écrivain Olivier Molin, auteur notamment du populisme de point la mort. Voilà le programme face à Mathieu Bock-Côté. C'est parti, cher Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver.
Ah ben c'est un bonheur.
Vous m'aviez manqué la semaine dernière.
Heureux de vous revoir parmi nous.
Ah, ça me fait plaisir. Je me suis dit, ça y est, un week-end et je suis déjà oublié par Mathieu Bock-Côté.
Mais d'aucune manière, cher ami.
Je tremblais. Arthur de Vatrigan, je vous sais plus peut-être loyal. Je vous ai manqué également ou pas?
Énormément.
Eh bien, c'est partagé. Merci en tous les cas d'être là, cher Arthur de Vatrigan. On commence avec 2024, oui. L'année de la grande révolte électorale. C'est la grande question de ce premier édito. C'est un constat qui frappe de plus en plus les esprits. 2024 sera une année électorale particulièrement importante en Occident, Mathieu, tant elle offre le spectacle de société de plus en plus polarisé, de moins en moins réconciliable. Et c'est sur ce contexte que vous souhaitez revenir.
Oui, parce qu'on... En fait, d'ailleurs, nos amis de Davos s'en étaient inquiétés il y a quelques semaines à peine en disant que l'année 2024, à l'échelle du monde, mais plus particulièrement en Occident, peut être une année de bascule remettant en question des choix de société. La notion de choix de société recouvre souvent les préférences des élites qu'on décide de faire porter à l'ensemble d'une société, mais remettant en question les choix de société faits dans le monde occidental depuis quelques décennies déjà. Donc les élections de 2024 pourraient être un moment de bascule au-delà, je dirais, de ce qui caractérise chacune de ces élections aux États-Unis ou en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est la fin d'un double consensus, en fait. La fin du consensus social-libéral, qui était le consensus post-année, on pourrait dire, 90, qui était aussi un consensus, dis-je, mondialisé. Donc, globalement, il y avait un modèle de société qui s'imposait à nous. C'était l'héritage de l'État-providence. L'État-providence qui disait un peu partout dans le monde occidental, quels que soient les problèmes que nous ayons, la réponse est toujours socio-économique. Les questions identitaires, les questions culturelles, les questions existentielles trouvaient une réponse exclusive dans une matrice matérialiste. Et on s'entend bien, je ne condamne pas ici toute dimension matérialiste de l'existence, en dernière instance, ça compte, mais le propre de cette espèce de sociale technocratie, ça consistait à dire le politique n'existe pas, le politique est simplement question d'ajustement technique, et il y avait des gens globalement d'accord sur les objectifs, sur les orientations, les sociolibéraux d'un côté et les libéraux sociaux de l'autre, et un désaccord relatif sur les méthodes. Ça, c'est vraiment l'héritage des années 90. C'est aussi le consensus mondialisé, je l'ai dit. Donc la mondialisation était l'horizon indépassable de notre temps. Il était inimaginable d'en sortir. À la rigueur, on l'a même vu dans l'évolution du vocabulaire. Il y a eu au début des années 90 les anti-mondialistes qui sont très rapidement devenus les alter-mondialistes, qui sont très rapidement devenus finalement des mondialistes comme les autres, qui avaient tous la même idée, qu'on soit de gauche, de droite, de centre, qu'importe. C'est à l'échelle du monde, de la gouvernance globale, que doit se poser désormais le problème politique. L'espace national est un espace périmé. Je note qu'en Europe, c'était indissociable aussi du consensus européiste. C'est-à-dire, l'intégration européenne était non seulement un projet politique qu'on pouvait fixer, une forme de semi-fédéralisme, on aurait pu s'y opposer, mais on aurait su de quoi on parle. Mm-hmm. Non, c'était l'idée qu'il fallait que l'intégration européenne soit toujours plus poussée, elle devait aller toujours plus loin, et c'était inarrêtable. Ce que disait d'ailleurs Mme von der Leyen en 2022, dans une préface qu'elle consacrait à la réédition des mémoires de Jean Monnet, où le père fondateur de l'Europe à bien des égards, où elle disait « l'Europe est un processus qui jamais ne doit s'arrêter ». Donc on comprend qu'en dernière instance, les nations n'étaient plus que résiduelles. C'était un consensus autour de la société des droits. Alors là, l'extension sans cesse des droits, validée, créée, même souvent par les cours suprêmes, et ce qui restreignait le domaine du politique, parce que ce dont on pouvait parler autrefois, on n'en parlait plus maintenant, parce que tout relevait du domaine des droits. C'est mon droit, de quel droit osez-vous vous y opposer? Donc restriction du politique, extension du gouvernement des juges. Et consensus aussi autour de l'État administratif. L'État administratif, c'est quoi? C'est le politique. Lui, encore une fois, était congédié et les hautes autorités administratives se multipliaient sous le signe officiellement de l'expertocratie, c'est-à-dire ces gens sont plus qualifiés que les élus pour gouverner, mais dans les faits, c'était un pouvoir, une redistribution de la souveraineté dans nos États qui sortait de la matrice démocratique. Et là, j'ai trois exemples qui me viennent à l'esprit pour évoquer ce consensus, mais dont nous sortons, j'y arrive. Jacques Delors, dont on a parlé récemment, qui, au moment du référendum sur Maastricht, disait « si vous vous opposez à Maastricht, quittez la politique. Il n'y a plus de place pour vous en politique. » Donc, autrement dit, le sens de l'histoire était fixé. Nulle possibilité de sortir de ce sens. Ensuite, vous pouvez aller plus rapidement, moins rapidement, mais il n'y a pas d'autre direction possible. Jean-Claude Juncker, qui avait dit aussi, un peu plus tard, « il n'y a pas de démocratie à l'extérieur des traités européens. » Donc les traités sont fixés et on ne peut pas en sortir d'aucune manière. Et finalement, un terme qui relève du vocabulaire politique ordinaire qui est assez intéressant, l'idée qu'il y a des partis de gouvernement et d'autres qui sont pas de gouvernement. On pourrait dire en un instant, tous les partis peuvent être de gouvernement théoriquement, il suffit de gagner une élection. Non, il y avait des partis de gouvernement qui étaient des partis qui étaient naturellement voués à prendre le pouvoir et à se le partager. Hein. Centre-gauche, centre-droit, on se partage le pouvoir. Donc c'était toujours sous le signe de l'alternance des équipes, l'alternance des bandes, l'alternance des amitiés, mais ce n'était jamais l'alternative entre différents projets politiques. Et il y avait des partis extérieurs au système, dit anti-système. Ben, ce système, justement, qu'on voit qui s'est déployé depuis l'après-guerre, mais plus encore depuis les années 70 et encore 90, ce système n'est plus capable de répondre aux problèmes dans le monde occidental. C'est un système qui n'est plus capable de répondre aux questions profondes qui traversent notre civilisation. C'est un système qui a fait faillite un peu partout. Et de ce point de vue, on voit émerger un peu partout aussi ce qu'on appelle l'alternative dite populiste.
Les premières expériences populistes n'ont pourtant pas été concluantes, Mathieu.
Et vous avez absolument raison de le noter. D'ailleurs, c'est ce que notait récemment l'essayiste québécois Martin Lemay en disant le populisme, entre guillemets, on l'a essayé et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça veut dire que ça ne fonctionnera jamais? Il donnait quelques exemples. Par exemple, Donald Trump, en 2016, prend le pouvoir, mais est-il prêt à exercer le pouvoir? Plus ou moins, on constate qu'il y avait une stratégie de conquête du pouvoir, il y avait moins une stratégie d'exercice du pouvoir. Peut-être ça va changer la prochaine fois. Il se présente comme en disant « maintenant, je sais ce que je fais si j'arrive au pouvoir ». Mais lui-même était conscient qu'en prenant le pouvoir en 2016, il était presque surpris, en fait, cette prise du pouvoir. Et c'était assez intéressant. Johnson, Boris Johnson, qui a été capable de construire une majorité impressionnante et qui s'est perdu à cause de sa personnalité fantasque en partie. Ensuite, par ailleurs, il n'est pas interdit de penser qu'il peut revenir un jour. Ensuite, en Europe occidentale, c'est un peu différent. Les partis dits populistes ont intégré les coalitions gouvernementales à des partis de gouvernement classiques, soit directement, soit indirectement, en Suède, au Danemark, en Italie. Et là, c'est intéressant parce que participant désormais aux coalitions gouvernementales, ils sont parvenus souvent à réorienter vraiment la politique de leur pays. L'exemple marquant là-dessus, ici, c'est le Danemark. Il y a deux pays où, pour l'instant, le populisme demeure dans l'opposition sous le signe de l'infréquentabilité. la France, évidemment. On le voit avec le RN et tout ce qui tourne autour de ça. Ça demeure le parti de l'infréquentabilité absolue. On l'extrême-droitise toujours, infréquentable, méchant. On refuse d'y voir un autre parti qui pourrait gouverner. On cherche encore, on joue contre lui, la chansonnette de l'antifascisme. En Allemagne aussi, mais là, pour des raisons un peu différentes, je dirais que je conçois parfaitement la méfiance naturelle envers le populisme allemand. En ces matières, vous pouvez me classer parmi les démocrates inquiets lorsqu'on regarde ce qui se passe en Allemagne, mais l'Allemagne n'est pas la France, l'Allemagne n'est pas l'Italie, l'Allemagne n'est pas la Suède, l'Allemagne n'est pas le Danemark. Donc, mais ayons à l'esprit une chose, cela dit, partout, les populistes, soit lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils n'étaient pas prêts, ou s'ils ont intégré, ils ont développé une culture gouvernementale, alors là, soudainement, ils ont été capables de faire de nouveaux choix politiques dans leur société. Je donne l'exemple du Danemark. Quoi qu'il en soit, l'affrontement politique a changé de nature. Et ça, je pense que c'est sur ça qu'on doit insister. Ce n'est plus un affrontement entre des partis qui sont globalement d'accord sur la vision de la société, mais en désaccord sur les méthodes. Ce sont des visions de la société, des philosophies différentes qui s'affrontent aujourd'hui dans le monde occidental. Et on n'avait pas vu ça depuis plusieurs décennies.
Et justement, dernière question, Mathieu Bock-Côté. Donc, quelles en sont les lignes de fracture aujourd'hui?
Alors, je pense que la première, elle est structurelle, c'est le rapport à la technostructure. Disons ça comme ça, c'est développer ce que certains appellent un terme qui me semble un peu inutile, l'état profond. Donc, laissons de côté ce terme, mais c'est à ça qu'on fait référence quelquefois. Donc, la technostructure. Donc, le fait est qu'aujourd'hui, vous pouvez voter pour en fait, qui vous voulez, le vrai pouvoir est ailleurs que chez les élus. Le pouvoir a été redistribué chez les juges, dans les autorités administratives, dans les médias, un peu partout. Donc là, il y a un enjeu de fond. C'est est-ce qu'il est possible de ramener le pouvoir chez les élus? Est-ce que quelqu'un qui se fait élire a suffisamment de pouvoir pour réorienter la société? Ou s'il se fait élire, toute la machine, tout le système cherche à le bloquer? C'est pas inimaginable, soit dit en passant. Il y a le rapport à la nation, évidemment. Est-ce que la nation est encore le cadre de l'expérience démocratique? Ou est-ce que c'est désormais un reste qu'on doit simplement tolérer parce qu'on peut pas le liquider directement, mais la nation devrait disparaître? De même, c'est le rapport à l'immigration. Est-ce que l'immigration massive est vouée à transformer en profondeur nos sociétés? Ou est-ce qu'il est légitime de la stopper, l'immigration massive? Le rapport aux identités traditionnelles. Par là, j'entends les sexes, les cultures. On est dans un monde où l'ingénierie sociale est devenue une forme d'ingénierie psychologique où on cherche à reconstruire intégralement les notions de base par lesquelles se définissait l'humanité, l'homme, la femme et ainsi de suite. Il y a un clivage autour de cela. Le rapport aussi à l'écologisme autoritaire, ça je pense qu'il faut la peine de le dire. Oui. On l'a vu avec la crise des agriculteurs, un certain écologisme est en fait l'instrument de déconstruction des cultures, de déconstruction des souverainetés. Ça devient une forme de monstre technocratique et bureaucratique qui multiplie les normes et qui étouffe la société. Le désaccord est aussi sur ça. Deux dernières réflexions sur ce thème. Aux États-Unis, cela dit, il faut comprendre, c'est une société qui est à ce point divisée que je suis de ceux qui ne sont pas persuadés que quel que soit le camp qui l'emporte, l'autre camp l'acceptera. Si Biden l'emporte, c'est loin d'être certain que les Trumpiens se reconnaissent, vont accepter l'élection, mais si Trump l'emporte, le refus prendra une autre forme chez les démocrates, mais il sera bien réel parce que c'est une nation fragmentée profondément. En Europe, c'est différent. L'enjeu, c'est la réorientation fondamentalement de la structure de pouvoir européenne, de la structure de pouvoir européiste, de la structure de pouvoir à Bruxelles. Est-il possible de la réorienter, d'enlever le pouvoir à la technocratie, d'enlever le pouvoir à la technostructure von der Leyenesque? Est-il possible de sans sortir de l'Europe, de réaménager la structure de pouvoir à l'avantage des nations et du politique? Chose certaine, nous renouons avec des années très, très politique. On s'est désolé pendant 30 ans que la politique était strictement technique et technicienne. Nous avons quitté cette période. La politique redevient existentielle.
Arthur de Vatrigan, sur ces enjeux 2024, élection européenne, élection américaine, est-ce que vous partagez en quelque sorte le constat de Mathieu Bock-Côté?
En partie, mais pas complètement. Crise sanitaire, crise sociale, crise économique, crise identitaire, crise migratoire. Il y a des crises partout. Emmanuel Macron avait annoncé la révolution en 2017. Pour une fois, un président tient ses promesses, mais la révolution ne se passe pas vraiment comme il l'avait prévu. Alors aujourd'hui, tous les regards sont dirigés vers Bruxelles. L'Union européenne est la coupable désignée. Elle porte le visage de Mme von der Leyen, évidemment. Mais ça serait un peu trop facile de la rendre seule responsable. Je pense que même si vous voulez convoquer tous les coupables sur le banc des accusés, le Stade de France ne suffirait pas à tous les réunir. Il faut peut-être commencer par rappeler ce que c'est que l'Union européenne. Contrairement à ce qu'on nous dit, c'est ni une fédération, ni un empire, ni une union. C'est juste une machine à acheter de la souveraineté. C'est uniquement ça, c'est le royaume des lobbies. un pays dans l'Union européenne, dans cette structure, c'est un lobby. Parce qu'il ne bosse pas pour l'intérêt général, il bosse pour son intérêt à lui. Alors oui, il existe l'intérêt général européen ou le bien commun européen. En fait, on appelle ça l'Allemagne. Un exemple, le Mercosur, c'est l'Europe, et donc la France également, qui pourrait se retrouver avec des containers entiers de poulets dopés encore plus que des culturistes. En échange, on leur donne un peu de cognac et surtout les Allemands vendent leur berline. Bon, Macron a eu peur de finir en pare-buffe de tracteur, donc il a dit on met stop pour l'instant, ça reviendra. Mais des exemples comme ça, il y en a tous les jours. Ce qu'il faut rappeler également, c'est que personne n'oblige la France à plier le genou devant la Sainte Europe. Elle l'a toujours fait toute seule, de son plein gré, par les différents gouvernements successifs, de droite comme de gauche, et qu'on émettait l'idée éventuellement de « on peut peut-être sortir ou réfléchir à sortir temporairement d'un traité ou d'un truc », on nous dit « non, c'est pas possible ». C'est pas possible pour quelle raison ? On nous explique la raison du droit. Or, la primauté du droit européen n'a jamais été votée souverainement par les Français. C'est juste glissé sournoisement par les juges. Et le seul moment où on a demandé aux Français leur avis, c'était en 2005, on connaît le résultat. Ensuite, si on, d'un point de vue de l'argent, on finance plus l'Union européenne que l'Union européenne nous rapporte d'argent, donc le chantage à l'argent, comme on peut le faire avec l'Italie, ça ne fonctionnerait pas. Et si ensuite, si on sort d'un traité, qu'est-ce que va faire Mme von der Leyen ? Elle ne va pas envoyer des blindés rouler sur Paris. Ça ne fonctionne pas. Donc évidemment, là, on arrive, Mathieu l'a dit, à un moment où le rapport de force peut changer. Une élection arrive en juin, Jordan Bardella et le Rassemblement national sont en pole position, et ce n'est pas les derniers événements qui risquent d'obstruer leur probable victoire à cette élection. Mais malheureusement, il existe aussi une malédiction en France. C'est que tous ceux qui ont vu un jour les portes de pouvoir s'ouvrir devant eux, bah, tout de suite, il y a eu l'évaporation immédiate des convictions. Le gauchisme culturel qui est magistralement décrit par Jean-Pierre Le Goff règne encore en maître. Un exemple, on a vu cette semaine le vote en première lecture sur l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Alors certes, le Rassemblement national n'est pas connu pour ses positions conservatrices, et les sujets sociétaux qui sont pourtant des piliers de notre civilisation semblent les intéresser autant que la compétition de curling pour Mathieu. Mais le résultat, quand même, c'est qu'aujourd'hui, rappelez-vous en novembre 2022, l'Assemblée nationale avait déjà voté la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir l'IVG. Dans les rangs du Rassemblement national, 23 députés avaient voté contre. À peine un an plus tard, ils sont plus que 12. Et côté LR, c'est l'inverse. Ils étaient 7 en 2022. Mmh. En 2024, ils sont 22. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les uns se sont approchés du pouvoir et les autres s'en sont éloignés. Quand on s'éloigne du pouvoir, tout d'un coup, les convictions reviennent. Quand on s'en approche, les convictions disparaissent. Et il y a un exemple assez frappant, c'est une ancienne journaliste qui travaillait dans un quotidien qui a aujourd'hui disparu, qui est devenue députée, qui autrefois défendait des positions assez courageuses sur sujets tabous. Et ben aujourd'hui, elle s'est abstenue dans le vote. Donc que le rapport de force puisse changer, très bien, mais c'est pour que les convictions s'évaporent, je ne vois pas l'intérêt non plus.
2024, l'année de la grande révolte électorale. Je suis certain qu'on reviendra sur ce sujet dans les prochaines émissions. Autre thématique ce soir, la dérive autoritaire du centrisme. Eugénie Bastier, notre consoeur de Figaro, s'est livrée cette semaine à une critique mordante du dernier livre de Jean Viard, le sociologue macroniste, qui lui a ensuite répondu, et vous souhaitez revenir sur cette querelle, Mathieu.
Oui, et ce n'est pas que revenir sur une querelle entre collègues, disons oui. Ça comme ça. C'est un moment intéressant sur l'évolution du débat public. Oui. Alors, je résume, Jean Viard publie ce livre, Une émeute et le langage de ceux qui ne sont pas entendus, pour une pensée post-coloniale positive. Je le dis en tout respect, c'est un des livres les plus mauvais que j'ai lu depuis longtemps. Mais je vous invite à lire la chronique que lui a consacrée Eugénie Bastier dans le Figaro jeudi, où non seulement elle le dit, mais elle le démontre. Et elle nous présente donc une forme de pensée un peu niaise, un peu simplette, pas très maligne en fait, sur le mode du boomer émerveillé devant la diversité radieuse. Donc, que nous propose-t-on? Plus de mosquées, plus de diversité, plus d'immigration, la France qui doit s'accepter comme une grande puissance métissée afro-méditerranéenne. Il n'y a pas tant d'insécurité que ça, il ne faut pas exagérer. Faites la liste, imaginez en fait le propos satisfait d'un homme qui se dit « ce monde est merveilleux ». Donc, il y a une grande mutation démographique française, elle est considérable, mais c'est une bonne chose finalement. Et du point de vue d'ailleurs de l'immigration, je dirais que Jean Viard et Renaud Camus voient le monde de la même manière, simplement que Renaud Camus voit ça en négatif et Jean Viard le voit en positif. Mais ils ont presque une commune lecture de la situation. C'est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, donc il y a ce livre et Eugénie Bastier répond très vivement dans un texte mordant où elle dit, elle l'épingle en fait, dans un texte cruel en disant, mais regardez, c'est une vision complètement évaporée, complètement désincarnée, c'est l'optimisme obligatoire, c'est le pangloss à l'heure de la diversité, tout est merveilleux et tout va bien. Donc ça, et, elle, et dans, je précise dans le livre, par exemple, on va nous dire de manière très subtile au moment des émeutes, parce qu'on revient notamment sur les émeutes, 67% des policiers ont voté RN au premier tour de la présidentielle. Ne pas oublier, on dirait la guerre de deux bandes. 45 000 policiers contre 50 000 émeutiers d'après Jérôme Fourquet. Donc les policiers, c'est une bande. Les émeutiers, c'est une autre bande et c'est la guerre des deux bandes. De la même manière, ça c'est exceptionnel, je vous en cite une autre, parlant des émeutes. Chaque fois, des jeunes essentiellement à la peau brune ou noire se mettent en mouvement contre une police et une société de plus en plus formatée aux idées brunes. Je vous traduis pour que ça soit simple. Oui. D'un côté, vous avez des populations dites racisées qui s'opposent aux idées brunes. Ça veut dire nazi, hein, on s'entend? Donc, brune. Globalement, les émeutes, qu'est-ce que c'est? C'est une population sous le signe de l'émancipation démocratique qui s'oppose à un pouvoir à tendance presque nazifiée que serait celui de la France aujourd'hui. Bon, je pourrais multiplier les exemples, mais je crois que vous avez, par exemple, le jeune Naël, on dira qu'il est victime d'un meurtre. Hein, le terme est choisi, le meurtre de Naël. Je pourrais multiplier les exemples. Quoi qu'il en soit, si vient le temps de dénoncer les émeutes, on va nous dire, parlant de la bonne bourgeoisie, facile de dénoncer ces vols au moment des émeutes et du pillage en sortant du restaurant. Bon. Donc, il y a une vision un peu étonnante. Et donc, Eugénie Bastier décide de critiquer très, très sévèrement. Et à ce moment précis, Jean Viard réagit assez mal.
Et c'est-à-dire que sa réaction, justement, quelle est-elle Jean Viard qui a sévèrement répondu, mais juste, quelle était sa réponse, pardonnez-moi.
Sur France Inter, bien évidemment, il le fallait, devant la radio du régime, il nous dit, c'est l'extrême droite n'a pas aimé mon livre, et c'est très bien que l'extrême droite n'aime pas mon livre. Donc là, on comprend. D'abord, il nazifie Jean Viard, ce sociologue réputé. D'abord, il nazifie la société française. Les idées brunes contre les corps bruns. C'est clair, là. Est-ce qu'on n'a pas besoin de se forcer pour comprendre ce qu'il nous dit? Ensuite, on nous dit, Eugénie Bastier s'oppose à moi, j'ai pas à répondre. J'ai pas à répondre, je dis extrême droite, c'est fini. Je n'ai pas à répondre. Et pour moi, c'est la dérive autoritaire du centrisme, ça. Parce que quand on dit, il suffit de coller l'étiquette des gueux, des bouseux, des malpropres, des possédés, extrême droite, Bastier. Eh ben, j'ai plus à répondre, j'ai collé l'étiquette. Eh ben, qu'est-ce qu'on voit à travers cela? On cherche à marquer sous le signe de l'infréquentabilité, on cherche à maudire. Et c'est là qu'on voit que le système est à la fois fort et faible. Fort parce que ça suffit encore aujourd'hui sur la radio d'État, coller la sale étiquette et c'est terminé. Mais faible parce que quand tout ce que vous avez à répondre à une critique sérieuse et argumentée, c'est extrême droite, extrême droite, extrême droite, vous confessez, je crois, le fait que votre propre pensée est sous le signe de la décrépitude.
Il nous reste moins d'une minute avant la publicité. Arthur de Vatrigan, on rappelle évidemment que dans la deuxième partie, vous recevrez Olivier Molin. Arthur, l'extrême droite, on n'a pas le droit de critiquer le livre de M. Viard? C'est interdit?
Moi, j'ai de l'affection pour Jean Viard. Mais bon, je vous avoue, j'ai toujours une passion pour les vieux disques rayés. Et là, on a toujours depuis tous les 10 ans, ça revient et ça raille de plus en plus. Mais il y a un petit côté nostalgique. Alors évidemment, la chronique d'Eugénie Bastier est brillante comme à chaque fois. Elle met le doigt sur une réalité. Cette réalité, c'est qu'on voit que cette gauche semble découvrir le réel en même temps qu'elle s'aperçoit qu'elle a aucun remède appliqué aux germes de destruction qu'elle a elle-même semé. Résultat, vous avez deux possibilités pour elle. Soit elle s'ampute de sa conscience et rejoint les rangs de celle qu'elle dénonçait avant, sans problème, vraiment sans mea culpa, sans rien. Soit au contraire, elle se félicite de la partition qu'elle a elle-même créée et l'encourage. Donc on n'est pas loin de la créolisation espérée par Jean-Luc Mélenchon. Donc finalement, on a quoi? On a des gens qui nous parlent d'avenir en restant complètement dans le passé. Je suis retombé sur une phrase de Jean Viard assez marrante. Nous sommes le 21 mars 2020, soit 4 jours après le début du grand confinement. Bah, vous savez ce qu'il déclare? Ma plus grande crainte, c'est le retour du nationalisme. 4 jours après le confinement. Quoi. C'est-à-dire que la France est sous cloche. Tout le monde flippe, on ne sait pas s'il faut se faire vacciner. Raoul arrive avec son produit miracle. On fait des plans de PQ et de pâtes. Lui, il arrive, non, le danger, c'est le nationaliste. Donc, c'est-à-dire que même dans cette période-là, ils arrivent toujours à jouer le théâtre antifasciste. Mais après, c'est le seul recours qu'il leur reste pour encore exister, malheureusement.
La publicité, revenons dans un instant. Vous pourriez recevoir, monsieur Viard?
J'en serais très heureux s'il accepte l'invitation.
Écoutez, faites-la, peut-être qu'il reçoit.
Mais quelle excellente idée!
Je ne suis pas sûr qu'il ait très envie de venir. La publicité, on revient dans un instant. Quasiment 19h30 sur CNews. Merci d'être avec nous pour la suite de Face à Mathieu Bock-Côté. Toujours avec Mathieu, bien sûr, Arthur de Vatrigan. Bonsoir Olivier Molin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes critique littéraire, écrivain. Pourquoi avoir invité Monsieur Molin ce soir, Mathieu Bock-Côté?
En 2019, Olivier Molin a publié un livre, Le populisme ou la mort, aux éditions chez Via Romana, si je ne me trompe pas. Et c'est un livre qui m'avait marqué, que j'avais trouvé très éclairant pour comprendre la nature de ce qu'on pourrait appeler l'insurrection populiste aujourd'hui. Et avec le mouvement des agriculteurs ces dernières semaines, et plus largement ces insurrections qu'on voit un peu partout en Europe, je me suis dit qu'il serait intéressant d'interviewer Olivier Molin à la lumière de son ouvrage de 2019. Olivier Molin, bonjour.
Bonsoir Mathieu.
Alors, question toute simple, question première, l'insurrection des agriculteurs, la colère des agriculteurs, pour reprendre le terme des derniers jours, est-ce que pour vous, il s'agissait d'un moment de ce que vous avez analysé comme étant une forme de révolte populiste en Europe?
Alors pour commencer, je vais essayer de dire un peu ce que dit cette crise, hein, effectivement, qui s'ajoute à des tas de crises qu'on a connues et qui donne quand même une première impression d'un système à bout de souffle. Ça, c'est la première impression. Moi, la deuxième chose qui m'a frappé dans cette crise, si vous voulez, l'impuissance de l'État. Alors, on le savait, hein, mais là, si vous voulez, on fait même plus semblant, là. Tout se passe à Bruxelles. On avait vu Gabriel Attal, vous savez, sur sa botte de foin, qui a fait deux, trois annonces, mais tout le monde a compris que c'était à Bruxelles que ça se passait. Donc c'est, première chose, c'est une révolte contre l'Europe, contre l'Union européenne, qui, si vous voulez, pour des raisons idéologiques, qu'on pourra peut-être développer tout à l'heure, je pense, a véritablement mis à mort l'agriculture. Hein, c'est une mise à mort, ce à quoi on a assisté. Vous savez, Houellebecq avait écrit dans Sérotonine, dans son roman, il parlait beaucoup de l'agriculture, et il disait, avec sa préscience coutumière, qu'on assistait à un plan social, et il disait même le plus grand plan social à l'œuvre, à l'heure actuelle. Je crois qu'il avait absolument raison. Et c'est un plan social qui est... voulu, si vous voulez, hein, qui est parfaitement voulu. C'est l'idéologie libre-échangiste qui a décidé à un moment donné que l'agriculture, si vous voulez, européenne n'avait plus d'avantages comparatifs et qu'il fallait par conséquent s'en séparer et acheter au Brésil, en Argentine, en Nouvelle-Zélande, etc. Donc c'est vraiment une mise à mort. Donc c'est ça qu'il faut commencer par... donc autant vous dire que demander la protection à l'Union européenne... ça fait penser à la duchesse de Barry.
Encore une minute,
voilà. Hein, donc on a aujourd'hui 40 traités de libre-échange qui ont été, adoptés par l'Union européenne dans le dos des Français en partie, hein, parce que personne n'était au courant véritablement de cette affaire-là. Et donc on a aujourd'hui une Union européenne, si vous voulez, qui impose aux agriculteurs une concurrence frontale avec des pays qui sont dispensés des contraintes qui pèsent sur les agriculteurs. C'est totalement fou. Pendant la crise, j'avais vu un reportage qui était fascinant. Ça se passait à Sedan, à la frontière belge. En face de Bouillon, il y a des agriculteurs belges qui tombent sur un camion qui vient d'Ukraine, rempli de centaines de milliers d'œufs, qui ont passé la frontière donc sans droit, et des œufs qui ne sont pas aux normes européennes. Alors eux, on les emmerde, si vous me passez l'expression, on leur calibre leurs œufs, ils ont des normes dans tous les sens, et il y a des œufs qui arrivent produits trois fois moins chers, évidemment, et qui inondent le marché. Donc c'est insupportable. Et pour répondre directement à votre question, je voulais faire ce petit concours pour un petit peu voir de quoi on parlait. Oui, moi je pense que c'est effectivement un nouvel épisode d'une révolte populiste, et plus exactement d'une révolte contre la mondialisation. Vous savez, il y a des gens qui ont, ces dernières années, qui ont un peu enterré la mondialisation, qui l'ont peut-être enterré un peu vite.
Au moment de la crise Covid, par exemple, voilà. La mondialisation est terminée, on l'entendait souvent.
Voilà, exactement. En fait, elle n'est pas terminée du tout. Elle continue de plus belle. Et je pense que, vous savez, cette mondialisation, il y a une époque, on la disait heureuse, ce qui était un peu absurde. Mais la vérité, c'est que la dire malheureuse serait absurde aussi. Je pense que cette mondialisation, elle est ni heureuse, ni malheureuse, ou plus exactement, elle est heureuse pour une minorité et elle est malheureuse pour une majorité. Si vous voulez, je crois que... Parce qu'elle crée de la richesse, cette mondialisation. C'est-à-dire que le commerce qu'elle permet crée de la richesse, mais cette richesse, et ça, c'est évidemment Christophe Guillouis, le géographe, qui l'a montré dans tous ses ouvrages, cette richesse, si vous voulez, à 80-90% de cette richesse va dans les grandes métropoles. Et elle laisse complètement en carafe des territoires entiers, cette fameuse France périphérique de Guillouis, qui regroupe 60 à 70% des gens et qui ne, si vous voulez, touche absolument aucun fruit de cette mondialisation.
Alors, je reviens un instant sur le mot populisme, parce qu'il me semble, dans votre ouvrage, donc, le populisme ou la mort, vous le revendiquez positivement. Normalement, populisme, c'est une insulte. Populisme, c'est une manière d'étiqueter négativement quelqu'un. Vous dites non, le populisme, c'est bien. Alors, qu'entendez-vous par populisme?
Alors, si vous voulez, ce populisme, effectivement, il est vu en général en termes apocalyptiques. hein, en termes de menaces, de repli identitaire, de danger démocratique, etc. Certains même l'ont comparé à une forme de totalitarisme qui reviendrait. C'est un chiffon rouge, en fait, hein, qui est agité au nez de tous les gens qui vont remettre en cause l'évolution de notre société, l'immigration massive, l'islamisation de la société, l'insécurité, la fin des frontières, etc. C'est un chiffon rouge. Moi, évidemment, je ne le prends pas comme ça, bien entendu. Je le prends. Alors moi, j'ai beaucoup, si vous voulez, compris ce qu'était le populisme en lisant un auteur que vous avez, je crois, un philosophe que vous avez reçu ici même,
Vincent Coussodière,
qui a beaucoup parlé de ça dans ses ouvrages. Si vous voulez, lui, qu'est-ce qu'il dit ? C'est que le populisme, c'est pas une crispation identitaire, c'est une liberté que le peuple, c'est une liberté que le peuple s'octroie pour conserver quelque chose, et notamment conserver une sociabilité. Hein, c'est comme ça qu'il faut voir ce qu'est le populisme. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, si vous voulez, en se dressant contre son élite, ce peuple populiste, il entend signifier à son élite qu'il veut conserver une sociabilité et qu'il veut que cette élite le protège, si vous voulez, des influences extérieures excessives.
Autrement dit, c'est pas, si je vous comprends bien, pour vous, le populisme, ce n'est pas un refus de l'élite, mais c'est un rappel à l'ordre de l'élite en disant « faites votre travail ».
Exactement. Pour moi, c'est un rappel à l'ordre de l'élite. Et c'est, si vous voulez, c'est un rappel à l'ordre politique, précisément contre une absence de politique. C'est comme ça qu'il faut l'articuler, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est simplement des gens qui disent « Nous, ce qu'on veut, c'est être gouverné, selon notre intérêt. » C'est ça que disent les populistes. On veut être gouverné, on veut être protégé, on veut... Vous savez, c'est ce que je vous disais avant, là, ce système de cette mondialisation, elle met aujourd'hui aux prises, donc des gens des villes connectées, etc., puis les gens de cette France périphérique, si vous voulez. C'est ces deux Frances qui sont aux prises. Il y a une de ces Frances, ceux qui vivent dans les villes, qui font du business, qui voyagent, qui ont, si vous voulez, un entre-gens et une situation sociale qui font qu'ils peuvent se protéger. Je pense que la grande idée, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui peuvent se protéger tout seuls. Vous savez, quand on enlève des frontières à un État, on les remet à l'intérieur. Et il y a des gens qui ne peuvent pas se protéger. Et ces gens qui ne peuvent pas se protéger, c'est les gens de cette France périphérique, c'est des gens qui ont moins de diplômes, donc qui subissent le chômage, à haute dose. Enfin, c'est des gens qui subissent la concurrence du monde entier sur leur palier, c'est des gens qui subissent l'insécurité, etc., etc. Et c'est ces deux Frances aujourd'hui, en fait, si vous voulez, dans le populisme, c'est une de ces Frances qui exprime son rejet de la politique de qui est faite contre elle, quoi.
Arthur de Vatrigan.
Donc là, on parle de votre ouvrage qui est un recueil de chroniques, donc un essai. Mais je rappelle, ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes un très grand romancier. Et que si vous aimez Marcel Aimé, Frédéric Dard, Audiard, si vous voulez, vous aimez l'anarchie poétique, rire, boire et pleurer, je peux vous conseiller d'acheter ces romans. Parce que justement, dans ces romans-là, vos personnages sont les abandonnés, sont ceux de la France périphérique. C'est toujours des pieds niqués à qui il arrive des aventures, souvent très drôles, mais toujours en lien justement avec cette déconnexion. Et j'ai l'impression que dans vos romans, vous permettez de remettre ces gens abandonnés, réels, qui existent, à une échelle qui, pour le lecteur, permet de voir que quand on pense à une échelle européenne, forcément qu'on est complètement déconnecté. Quand vous les mettez en scène scénaristiquement à leur échelle, on se rend compte vraiment de la réalité. Alors, d'où vient-vous cette passion pour ces exclus et quel est le message que vous voulez passer par vos romans ?
Alors, je suis pas sûr certain qu'il y ait un véritable message, hein, c'est vrai que le roman, contrairement à l'essai, puisque l'essai dont on parle ce soir, c'est un ensemble de chroniques, mais c'est vraiment de l'ordre de l'essai où j'essaye un petit peu de comprendre, d'organiser les idées. Le roman, c'est autre chose, si vous voulez. Le roman, je pense qu'il doit précisément échapper à la politique, échapper à l'idéologie. Alors évidemment, je suis ce que je suis, donc il y a certainement des choses qu'on retrouve dans ces romans. Mais il est vrai que c'est des romans, si vous voulez, tous les romans que j'ai écrits quasiment se passent dans cette France périphérique, en effet, et se passent dans des gens, si vous voulez, alors des perdants de la mondialisation en quelque sorte, mais des gens qui ne trouvent plus leur place dans ce que la France est devenue, si vous voulez. C'est-à-dire que avec cette, vous savez, toujours cette, comment dirais-je, on a l'impression que l'économie a tout bouffé, quoi. Hein, on a l'impression que l'économie a tout, qu'il n'y a plus de place en dehors de l'économie. Et moi, je mets en scène plutôt effectivement des gens qui sont un peu des rêveurs et qui des gens qui veulent pas vivre sous la contrainte permanente de l'économie et qui donc par conséquent vont créer des sortes de contre-mondes, des altermondes. Je vous entendais parler avant d'altermondes. Alors c'est pas tout à fait les mêmes. Enfin, ils vont créer des contre-mondes entre eux et ils vont essayer de recréer finalement des communautés réelles avec une sociabilité réelle et qui puise dans la tradition, quelque part. Donc c'est des romans qui ont à voir avec une certaine tradition revisitée.
Alors, c'est pas sans faire lien avec la prochaine question que j'ai pour vous. On a parlé du mouvement des agriculteurs. Mmh. Vous nous parlez des... Arthur évoquait dans votre œuvre les déclassés, les bras cassés des temps présents. Mais il y a eu un épisode avant la révolte des agriculteurs. C'est le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes s'inscrivait aussi dans votre logique? Parce qu'on l'a dit, s'il y a révolte populiste, elle prend plusieurs visages à l'époque électorale. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, c'était pour vous aussi un moment important dans cette révolte populiste?
Alors oui, encore plus peut-être même que le mouvement agricole, je crois que c'était vraiment là un mouvement tout à fait important et j'allais dire populiste chimiquement pur, quoi, quelque part. Vous savez, on a, alors après, ce mouvement a été récupéré par des tas de gens, il a été brisé par les Black Blocs et compagnie, mais surtout la gauche a essayé de tirer la couverture à elle en faisant un mouvement social, ce qui n'était pas en fait. C'était pas un mouvement social. Au sens, vous savez, où on connaît les mouvements sociaux, là, on voit la CGT qui défile, les travailleurs, etc. Là, non, c'était pas une catégorie professionnelle, c'était des gens qui venaient de. Il y avait des petits patrons, il y avait des artisans, des commerçants, des ouvriers, il y avait des agriculteurs déjà sur les ronds-points. Et si vous voulez, c'était cette France extrêmement diverse et c'était, moi je dirais plus, c'était un mouvement national, pas un mouvement social, un mouvement national. C'était la petite France, justement.
Un peuple qui voulait faire sentir son existence.
Un peuple qui voulait, justement, qu'on veut faire sortir, si vous voulez, par la petite porte et qui dit, et c'est ça principalement le populisme, qui dit j'existe. Vous savez, le populisme, ça fait parfois penser quand on amène les vaches à l'abattoir et qu'elles ruent. Vous savez, les vaches, elles sont beaucoup moins bêtes qu'on le dit. Elles sentent le sang, elles sentent la mort et elles ruent. Mais le populisme, c'est ça. C'est un peuple qu'on mène vers les poubelles de l'histoire et qui dit non, je veux encore vivre, quoi. Donc, il y a des points communs, cela dit, entre cette crise agricole et la crise des Gilets jaunes, à mon avis. Il y a d'abord une chose, et ça, Christophe Guillou l'a rappelé d'ailleurs cette semaine, je crois que c'était même sur votre antenne. Oui. Il disait que toutes les crises récentes qu'on a connues viennent justement de cette France périphérique déjà. Hein, donc, géographiquement, elles viennent toutes du même endroit. Bon. La deuxième chose qu'on pourrait noter, c'est ce que je disais, il y a cette diversité dont je parlais pour les Gilets jaunes, diversité sociale, on la retrouve quelque part dans ce monde agricole. Alors évidemment, c'était des agriculteurs, mais si vous voulez, on était plus habitués jusqu'à présent à voir des betteraviers en colère, des céréaliers en colère. Là, on avait le monde agricole qui était représenté dans tous ses échelons, j'allais dire, avec une grande quantité d'éleveurs d'ailleurs, parce que je crois que c'est eux qui prennent le plus, si vous me permettez l'expression. Et puis il y a un autre point qui pourrait rapprocher les deux crises, c'est une volonté, du moins dans un premier temps pour cette crise agricole, une volonté d'échapper aux syndicats. Dans un premier temps, c'était clair, d'échapper aux institutions intermédiaires.
Pour éviter que la révolte ne soit confisquée par une logique corporatiste.
Je crois qu'il y a une grande méfiance et qu'il y a de plus en plus, on assiste dans ce populisme à des colères hors cadre, si vous voulez. Des colères qui n'appartiennent plus à des cadres. Il y a quand même énormément de paysans qui, par rapport à la FNSEA, sont un petit peu gênés aux entournures, quand même. Ils n'ont pas tout à fait confiance dans ce syndicat pour les mener, pour les défendre correctement, si vous voulez. Donc, il y a, vous voyez, des points de convergence. Et puis, alors, évidemment, le point à noter, quand même, c'est que cette crise agricole n'a pas été parasitée, justement, par les Black Blocs dont je parlais avant. Il faut jamais oublier, quand même, que c'est eux qui ont pourri les Gilets jaunes, et qui ont, à tel point qu'à l'époque, vous savez, il y a même des gens qui disaient que, peut-être que la police laissait rentrer volontairement, vous savez, quand il y avait ces manifestations sur les Champs-Élysées. Je sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, c'était la meilleure manière de pourrir le mouvement, puisqu'à un moment donné, il est devenu tellement violent et tellement incontrôlable que les Françaises ont rallié le Parti de l'Ordre.
Mais est-ce que c'est pas la différence, d'ailleurs, entre ces deux mouvement. D'un côté, les Gilets jaunes étaient non organisés et ne voulaient pas l'aide. Donc, ils pouvaient plus facilement se faire organiser de l'extérieur par un groupe, un activiste. Alors que si vous êtes devant les agriculteurs qui manifestement sont organisés, ont conscience de leurs intérêts, savent les formuler et en dernière instance font une certaine forme de démonstration de force, c'était beaucoup plus difficile de les instrumentaliser.
Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Et puis, il y a une chose importante, c'est que les paysans ont des fourches et des tracteurs. Ce qui permet quand même, si vous voulez, à un moment donné, si des gens veulent véritablement venir parasiter le mouvement, je pense qu'ils viennent pas s'y frotter, quoi. Mais en tout cas, bon, juste pour conclure là-dessus, si vous voulez, je pense que tous ces gens, en effet, que ce soit donc les Gilets jaunes, les agriculteurs, etc., expriment une même colère, en fait. Ils expriment une même colère. Et cette colère, c'est quoi? C'est d'avoir été dépouillés de leur souveraineté politique par des institutions européennes, enfin, par des technocrates, si vous voulez. Donc, il faut quand même savoir, personne ne connaît leur nom. On connaît même pas leur nom, si vous voulez. Et des gens qui, si vous voulez, c'est à peine si les peuples ont été informés d'évolutions institutionnelles fondamentales pour notre vie au quotidien, on en était à peine informés. Et je pense que c'est contre ça. Moi, je vois quand même vraiment cet élément anti-européen. Et là, dans la crise agricole, il était encore plus clair, à mon avis, que dans la crise des Gilets jaunes.
Arthur de Vatrigan.
Vous aviez pris position donc pour les Gilets jaunes, mais aussi vous avez pris, au moment de Notre-Dame-des-Landes, pris position pour les paysans, justement en rappelant que Notre-Dame-des-Landes allait déposséder les paysans de leur terre. Notre-Dame-des-Landes, bon, bah, ça s'est fini un peu en autre boudin. Les Gilets jaunes, c'est fini avec un chèque. La révolte des agriculteurs, ça a l'air de s'éteindre doucement. Est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir une sortie, une vraie sortie de ces différentes crises successives avec une vraie révolution au moins dans la structure politique, ou c'est voué à l'échec?
Moi, enfin, je voué à l'échec, c'est toujours difficile de l'affirmer comme ça, mais moi, il y a une chose dont je suis absolument convaincu, si vous voulez, c'est que nos élites dirigeantes, il y a une, comment dire, elles sont pétries d'une idéologie, cette idéologie libre-échangiste, qui est une idéologie, voilà, qui dit simplement, j'en parlais avant, il y a plus d'avantages comparatifs, ok, on arrête l'agriculture et on va acheter ailleurs. Parlez-leur des paysages, parlez-leur du rôle des paysans pour la France, ils s'en foutent complètement. C'est une vision purement économiste. Moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est que j'ai pas beaucoup de convictions. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Mais j'en ai une quand même, c'est que c'est pas ceux qui nous ont conduits là où on est qui nous en sortiront, que ce soit à Paris ou à Bruxelles. Quoi. Ça, je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il y a cette élite dirigeante, il faudra la balayer. Quoi. Sinon, on ne sortira pas, parce que là, aujourd'hui, c'est une plaisanterie. On voit Macron à Bruxelles qui se dit quasiment souverainiste. On voit l'Europe qui dit « vous inquiétez pas, on va faire... » Mais c'est une plaisanterie. C'est-à-dire, l'Europe, 40 traités de libre-échange, le Mercosur n'est pas du tout arrêté, les négociations ne sont pas arrêtées, hein, contrairement à ce que dit le président de la République, ça continue. Je pense que dans l'ADN de cette Europe, si vous voulez, il y a ce libre-échange, il y a une croyance véritablement quasi religieuse de ce pouvoir du libre-échange. Et je ne crois pas qu'ils renonceront. Et puis il y a quelque chose, je voudrais juste quand même préciser, il y a quelque chose, si vous voulez, qu'il faut bien comprendre, je crois, et qu'on sous-estime parfois, c'est que cette élite européenne ou libérale, pour la comme on voudra, elle a une haine de la nation qu'on n'imagine pas. Si vous voulez. Elle a chargé la nation de tous les maux. C'est-à-dire que la nation, c'est les crimes du passé. C'est l'horreur absolue. Moi, je pense que dans cette haine farouche pour la nation, il y a aussi une forme de haine de soi. Enfin, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a, si vous voulez, cette haine de la nation font qu'ils ne reviendront pas en arrière. Vous savez, aujourd'hui, le vrai clivage, c'est ceux qui ont tout perdu, si vous voulez, avec la mondialisation et qui auraient tout à gagner au retour des États. Face à ceux qui ont tout gagné à la mondialisation et qui auraient tout à perdre autour des États. Alors, il est là le clivage.
Eh bien, vous nous y conduisez, il nous reste 1 minute 30 environ. Le populisme ou la mort, c'est le titre de l'ouvrage 2019. Donc on comprend que pour vous, le populisme peut gagner. Mais que pourrait vouloir dire une victoire du populisme dans votre esprit?
Alors oui, c'est une excellente question, vous avez absolument raison. Moi je pense, si vous voulez, que le populisme est un outil, j'allais dire. C'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Hein. Déjà, c'est pas une idéologie, il faut bien le dire. Regardez, quand vous voyez vous en parliez un peu avant, le populisme se traduit par une offre politique qui est extrêmement diverse, qui va d'offres très libérales, d'offres très étatistes. On a même récemment un populiste qui est quasiment libertarien en Argentine, qui a l'air un petit peu hurluberlu, mais enfin bon, mais vous voyez, il est aussi classé dans la grande famille des populistes. Et si vous voulez, donc c'est pas une idéologie, pour moi, c'est un moyen. En vérité, une fois que les populistes arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font comme politique? Ils font une politique nationale, puisque le populisme, c'est un rappel à l'ordre pour dire nous voulons que les dirigeants gouvernent selon notre intérêt national, nous protègent des influences excessives, nous protègent de l'excès de liberté des marchés, nous protègent... Vous voyez, donc, la traduction, pour moi, du populisme, c'est une politique simplement nationale, c'est-à-dire d'intérêt national, tout simplement.
Autrement dit, le populisme, finalement, c'est la norme d'avant-hier pour vous.
Le populisme, c'est simplement une manière de changer les dirigeants, de dire à un moment donné, vous ne changerez pas. Moi, je ne crois pas, si vous voulez, que les gens qui nous ont menés là nous en sortiront. Je ne crois pas que Emmanuel Macron va se découvrir souverainiste. C'est pas vrai. Il dit ça parce qu'il y a eu la pétoche des tracteurs 15 jours avant le salon de l'agriculture, mais c'est pas vrai. Il n'est pas souverainiste. Son ADN, si vous voulez, c'est réellement un ADN. Il l'a dit tout le temps, l'égoïsme national, il voulait lutter contre ça, etc. La souveraineté européenne. Ah, maintenant, il parle de deux souverainetés. C'est une absurdité, puisque la souveraineté, par principe, ne se partage pas. Et donc, simplement, si vous voulez, pour vous dire que je ne crois pas que ces élites européistes nous sortiront là. Donc, pour moi, le populisme, c'est simplement de balayer et de mettre une autre élite dirigeante à la place qui gouvernerait selon les intérêts du peuple.
Eh bien, un grand merci Olivier Molin. Merci à tous les deux, Mathieu Bock-Côté, Arthur de Vatrigan. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et nous, dans un instant, on se retrouve pour l'heure des Pro 2. A tout de suite sur CNews.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.